Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir, bienvenue dans votre émission Grand Dialogue spécial. Élection présidentielle malienne du 29 juillet. Un programme du studio Tamani en partenariat avec la Maison de la Presse. Ce soir, Fatoumata Togola, bonsoir.
Bonsoir.
Nous recevons M. Mamadou Traoré, il est le candidat du parti.
Union Anambole Unioroma.
Voilà, son projet de société, la situation socio-économique, politique et sécuritaire au Mali, la place des jeunes et des femmes et l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sont autant de questions que nous allons aborder avec lui. Et bien sûr, au micro pour conduire ce débat, Fatoumata Togola et moi-même, Kolsian Garsou.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Mamadou Traoré, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Nous sommes à quelques 5 jours du premier tour de cette élection présidentielle. Quel est votre état d'esprit? Pessimiste, optimiste, inquiet, serein ou le tout à la fois?
Serein, confiant et déterminé.
D'accord. Alors, quelles sont les chances, vos chances de gagner pour cette élection présidentielle? On sait quand même que vous venez d'arriver sur la scène politique.
Et mes chances pour gagner cette élection présidentielle sont à 280%. Nous sommes 80,02% de jeunes. Nous avons commencé ce travail-là il y a plus de 15 ans. Nous avons parcouru plus de 8700 villages en 15 ans, amené 10 noix de cola et 500 francs pour respecter nos parents et pour qu'ils fassent des bénédictions pour nous. Et le travail a commencé il y a longtemps. Ça va forcément donner la présidence de la République au soir du 29 juillet. Nous sommes sereins et confiants.
Et ce sont ces raisons-là qui sont suffisantes qui ont, vous ont poussé à être candidat?
Non, déjà, ça c'est le parcours. Et ce qui nous a poussé à être candidat, c'est un constat. Et aujourd'hui, il y a une crise sécuritaire généralisée au Mali, une méfiance communautaire, une méfiance entre les gouvernants et le peuple. Donc, nous, jeunes, nous sommes la majorité de la population. Nous sommes dit qu'il faut apporter notre pierre à l'édifice commun, qui est de participer à l'élection présidentielle et être élu et commencer à avoir une nouvelle option au Mali.
Et pensez-vous avoir l'expérience requise pour être président de la République?
Écoutez, on devient forgeron en forgeant. Il n'y a pas une école spécifique pour la présidence de la République. Et là, nous avons l'amour de la patrie, nous avons une vision, nous avons un programme que nous allons exploiter à bon escient pour le bonheur du peuple malien.
Mais M. Traoré, comme une expérience politique est indispensable pour être président de la République, la connaissance des grands dossiers politiques, nationaux comme internationaux.
Bien évidemment, on vit la situation, raison pour laquelle aujourd'hui, si nous sommes 80,02%, c'est que c'est nous qui sommes là en train de vivre toutes les situations du Mali, et tous les maux du Mali se résument autour du chômage de la jeunesse, des problèmes de la jeunesse. Donc si les jeunes veulent venir aux affaires, et ça va résoudre des problèmes. Et bien évidemment, et il faut le reconnaître, le poste du président de la République, c'est du travail. Le poste d'un ministre, c'est du travail. Le poste de député, c'est du travail. Donc pourquoi dire tout le temps, trouver de l'emploi pour les jeunes? Les jeunes vont venir et engendrer les mêmes pas comme à l'international. Nous avons vu qu'au niveau de la France, Emmanuel Macron, il est venu à 38 ans parce que le peuple français a voulu changer. À un moment donné de la vie et des États-Unis, on a essayé un pot noir. La Belgique aujourd'hui est gouvernée par un jeune. Et l'autre jour, tout près, il y a M. Alassane Dramane Ouattara qui disait qu'il faut confier le pouvoir à une autre génération.
Mais et tous ces exemples que vous citez, Macron a une expérience politique, il fut ministre de l'économie, quand même de François Hollande. Barack Obama était sénateur. Donc est-ce que ce sont des exemples qui correspondent à votre profil?
Le Mali a d'autres réalités. Par exemple, moi je connais le prix du kilo de riz. Je connais les difficultés maliennes. Je sais qu'est-ce que c'est que le 5 du mois. Et je connais la chèreté de la vie à tous les niveaux. Et je suis entrepreneur dans le domaine de l'assainissement. J'ai conduit moi-même un de mes véhicules de ramassage des ordures pendant 3 ans ou 8 mois. J'étais au quotidien avec le peuple malien. Je sais qu'est-ce qu'ils vivent. On peut trouver des solutions. Cela est possible.
Le Mali est la troisième économie de l'espace IOMOA et pourtant la situation économique n'est pas si reluisante que ça. Sur le plan sécuritaire, la crise s'est transposée du nord au centre. Et vous, Quelle lecture faites-vous de cette situation? Vous pensez que vous avez la solution?
Nous avons la solution. Ça passe déjà par la bonne gouvernance. Un pays ne peut pas vivre dans un état de non-droit. Donc nous allons nous atteler à faire la politique autrement, c'est-à-dire gérer très bien la République en réduisant le train de vie de l'État et en luttant contre la corruption. Et dans cette lutte contre la corruption...
On va y revenir, hein, s'agissant de la corruption. Oui, allez-y.
Okay. Oui.
Voilà. Donc nous allons lutter contre la corruption, nous allons faire la bonne gouvernance. Nous avons des projets pour nos siens également qui vont faire en sorte que le Mali puisse commencer à engendrer le pas de l'émergence, c'est-à-dire dans le domaine de l'agriculture par exemple. Vous savez, nous avons 703 communes au Mali. Et 703 communes, nous avons un projet qui se nomme Projet pour tous, qui prévoit de faire dans chaque commune deux projets. Et si on fait deux projets dans chaque commune, ça fait la moyenne de 1406 projets. Et les 1406 projets, chaque projet va employer 200 personnes. 200 personnes comment? Dans le domaine de l'agriculture en coopérative, 50 personnes. Dans le domaine de l'agriculture...
Là, vous êtes en train d'élaborer les grands axes de votre programme. On va y revenir également. Oui, la question sécuritaire, mais l'emploi. Vous avez parlé tout à l'heure de l'agriculture. J'aimerais vous poser une question toute simple. Que mangez-vous comme céréales dans votre plat chez vous?
Le riz.
Du Mali ou importé de Thaïlande?
Importé de Thaïlande.
Mais alors,
et qu'est-ce qui explique cela?
Voilà.
Je ne suis pas dans les affaires d'abord. Une fois dans les affaires, raison pour laquelle nous sommes en train de venir aux affaires, si vous voyez que j'ai associé le problème de développement et d'emploi dans le problème sécuritaire, parce que l'insécurité est favorisée par la frustration.
Mais vous dites ne pas être dans les affaires. Et comment comptez-vous résoudre les problèmes de ces affaires-là, vu que vous dites que vous n'êtes pas dans les affaires d'abord?
Mais je vous ai dit, vous voyez, on devient forgeron en forgeant. Une fois dans les affaires, nous allons discuter avec les communautés, échanger, du moins, nous allons échanger avec les communautés issues de ces localités où il y a des problèmes. Et les solutions trouvées, c'est les solutions de tous. On est président de la République, mais on n'est pas spécialiste dans tous les domaines. On échange avec les populations. On prend les préoccupations des populations, les solutions données par les populations et ces solutions-là qui sont les solutions de tous.
Vous êtes attelé sur les projets d'agriculture et concernant la santé?
Je vais en venir. La santé me préoccupe très très fort. Quand vous prenez le domaine de la santé au Mali, c'est laissé pour compte aujourd'hui. Et déjà à la néonatologie, les enfants de 0 à 5 ans, 80% meurent pourtant ça peut être évité. Maintenant, nous, dans le domaine de la santé, nous allons équiper les structures sanitaires. Nous allons, mon gouvernement et moi, nous allons nous soigner au Mali ici. Et une part de mon fonds de souveraineté sera mise à la disposition des accidentés de la circulation routière et des nouveau-nés. Déjà, dans ce domaine-là, nous comptons améliorer la condition de vie des médecins. À notre époque, les médecins ne vont pas aller en grève pour 45 jours.
Mais tout ça est facile à dire qu'à faire, non, M. Traoré?
Je ne pense pas. C'est plus facile à faire qu'à dire, parce qu'il faut le vouloir. Et dans toute chose, on appelle volonté politique. La volonté politique, et c'est l'amour de sa patrie. C'est vouloir le faire. Quand on veut, on peut.
Moi, je reviens sur le côté agriculture. Vous avez dit que vous mangez du riz importé de Thaïlande. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que candidat à l'élection présidentielle, vous êtes fier de cela? En quoi est-ce que vous contribuez, étant d'abord citoyen malien, à l'amélioration des conditions des cultivateurs maliens, par exemple? Vous devez commencer d'abord par consommer le riz du Mali. On sait que le Mali dispose d'énormes potentialités agricoles. Pourquoi accepterez-vous de manger du riz importé de Thaïlande?
Le riz
malien n'est pas de bonne qualité?
Non. Le riz qui se trouve sur le marché, c'est ce que tous les Maliens consomment.
Mais il y a du riz quand même qui vient de l'office du Niger.
On consomme tout. Je consomme du taux. Le maïs, c'est d'ici, c'est de notre cultivateur ici. Je consomme les oignons, c'est d'ici. Je consomme également les tomates, c'est d'ici. Donc, nous sommes en train d'aider nos populations à pouvoir survenir aux besoins et à travers ce qu'ils font déjà dans les champs. Maintenant, j'étais là en train de dire que nous avons un projet pour la République dans le domaine de l'agriculture. Ça va faire peu de frister. Le Mali est un vaste territoire. Et un pays d'agriculture par excellence. Maintenant, j'avais dit que nous avons 1406 projets et chaque projet allait employer 200 personnes. Ça fait la moyenne de 281 200 personnes employées sur l'étendue du territoire national. Kidal est à une commune, Kidal aura sa part, Kéba est à une commune, Kéba aura sa part. Donc il faut une équitabilité dans la gestion des ressources de l'État.
À part ces projets-là, et quels sont vos autres axes de projet de société ?
Il y a le désenclavement, les réseaux ferroviaires, il faut accentuer ça, il faut développer, il faut faire en sorte que on puisse avoir des rails d'ici la Côte d'Ivoire par exemple, pour le Burkina, il faut agrandir les routes partout, il faut également lutter contre l'impunité dans la gestion de l'État. Maintenant, nous avons également un projet pour la jeunesse, c'est l'industrialisation. C'est également se balancer dans le domaine du panneau solaire, essayer de faire un vaste réseau de panneaux solaires. Le Mali bénéficie d'un ensoleillement riche, donc nous pouvons utiliser ça à bon escient.
Et comment comptez-vous faire cela ?
C'est des panneaux solaires qu'on va faire, les panneaux photovoltaïques comme les cas du Maroc par exemple, qu'on va faire ici.
Mais le Maroc est un pays stabilisé quand même. Hein.
Le Mali va se stabiliser sous notre époque. Il faut commencer quelque part. Ça commence toujours par 1.0 pour arriver à 1.10 ou 20.
Mais comme il a dit, le Maroc est un pays stabilisé. On n'a pas les mêmes réalités. Donc, dans ce cas, comment est-ce que vous allez procéder à cela ?
Vous savez, il y a un mot qu'on dit en Bamanankan. On ne peut pas refuser de laver ses yeux parce que c'est cassé. Donc, nous avons de la volonté. Le Mali a des ressources humaines énormes qui peuvent surmonter des situations. Nous, jeunes du Mali, à travers ma candidature, nous allons faire la politique autrement. La politique mensongère, nous ne sommes pas là-dedans. Raison pour laquelle nous sommes en train de donner des chiffres qui peuvent être réalisés.
Quand vous dites « nous jeunes », vous vous considérez comme le représentant exclusif de la jeunesse malienne pour cette élection présidentielle ?
Bien évidemment, j'ai 37 ans.
Et vous avez parlé de la place de la jeunesse. La jeunesse, où est la place des femmes dans ce cas, dans votre programme ?
Quand on dit jeunes, déjà, nos mamans nous suivent. Et vous le savez, la tradition malienne fait qu'on se préoccupe des jeunes. Quand on dit jeunes, nous sommes du côté de nos mamans. C'est de trouver des petits métier pour nos mamans également, dans les fins fonds du Mali, pas que dans les grandes agglomérations, dans les fins fonds du Mali, pour qu'elles puissent trouver de quoi survenir aux besoins de nos petits frères et de nous-mêmes.
Mais quand vous dites petit métier, ça veut dire quoi ? Vous estimez que la femme n'a pas de capacité d'occuper d'autres fonctions, par exemple, même en milieu rural ?
Je vous ai dit dans le fin fond, n'oubliez pas qu'au Mali, nous sommes à près de 69% de non scolarisés. Donc, quand on veut trouver des métiers, il faut aller sur la base de nos réalités. Raison pour laquelle on parle de ces petits métiers. Maintenant, pour celles qui sont scolarisées, il faut trouver un quota pour elles. Dans la fonction publique, par exemple, nous proposons aux femmes un quota. Nous proposons aux femmes un quota dans le gouvernement. Nous proposons aux femmes un quota dans l'Assemblée. Il ne faudrait pas les favoriser seulement sur la...
Mais quel est le pourcentage de ces quotas ?
C'est dans les 40%.
Mais ne pensez-vous pas qu'il faudrait essayer d'élever le taux de scolarité des femmes et des filles dans ce cas ?
Et dans le domaine de l'enseignement et de l'éducation, nous avons un projet phare. C'est, vous voyez, pour rehausser le taux de scolarisation au Mali, nous allons nous appuyer sur l'assurance maladie obligatoire. Et chaque parent qui va amener son enfant à l'école sera automatiquement pris en charge par AMO. C'est pour inciter les parents à envoyer les enfants à l'école pour que nous ayons un taux de scolarisation autour des 80 voire 90% d'ici la fin de mon quinquennat.
Mais où allez-vous trouver tout cet argent-là quand même ? Tout ce que vous venez d'énumérer nécessite des investissements colossaux. Où allez-vous prendre cet argent ?
Nous allons mobiliser les ressources internes.
Comment ?
Je vais en venir. Et déjà, la taille de mon gouvernement, ça sera de 23 au lieu de 50. Et nous allons diminuer le train de vie du gouvernement. Ça va économiser de l'argent. Nous allons lutter également contre la corruption. Vous voyez, déjà, les rapports du vérificateur général, l'année dernière, c'était à 120 milliards. 120 milliards. Ça peut servir, ça peut couvrir l'assurance maladie obligatoire, ça peut également couvrir les travaux de nos mamans, les petits métiers qu'on veut créer.
Mais le vérificateur général n'a pas de pouvoir coercitif. Il constate tout simplement ce qui se passe. Il appartient à un procureur de saisir, de mener des enquêtes. La justice est indépendante. Comment vous allez faire si le vérificateur général, par exemple, établit qu'il y a des détournements des fonds d'argent? Vous allez pousser les magistrats à agir?
Nous, notre avantage, c'est que nous n'avons jamais été dans les affaires. Nous sommes en train de venir faire la politique autrement. Nous allons pousser les magistrats à agir.
Mais il y a la séparation des pouvoirs. Les juges sont indépendants.
Il faut qu'ils agissent. La séparation des pouvoirs, mais les textes sont là. Quand un dossier est donné, il faut suivre le dossier dans les règles d'art. Donc, si sous notre époque, quand quelqu'un faute, vous allez devant les tribunaux, les sanctions tombent. C'est obligatoire. Les tribunaux vont faire.
Et comment comptez-vous faire cela, vu que les magistrats aussi parlent de partir en grève?
Ça, ce n'est pas de mon ressort actuel. À notre époque, si je suis élu président, les magistrats ne vont pas partir
en grève. Mais par quel bâton magique, par quelle solution magique, vous allez empêcher les gens d'aller en grève, puisque c'est un droit constitutionnel?
Je vous ai parlé de la bonne gouvernance. Quand on gère bien une nation, il y a peu de grèves. Quand chacun gagne son compte, il y a peu de grèves.
Donc mais il y a grève quand même. Peu, oui, mais il y a grève quand même.
On ne peut pas, il n'y a pas de risque zéro dans toute chose. Je ne peux ne pas dire qu'il n'y aura jamais de grève sous notre ère. Non, non, non. Si je suis président de la République, nous allons recenser les problèmes, échanger avec les principaux acteurs, trouver des solutions pour que le Mali puisse émerger désormais.
Alors, Monsieur Traoré, si vous êtes élu président, quelles seront les trois premières décisions que vous allez prendre?
Tout d'abord, le domaine de la santé. Mon fonds de souveraineté, je prendrai une bonne part là-dedans pour mettre à la disposition des urgences sur toute l'étendue du territoire malien. Nous allons réduire la taille du gouvernement pour réduire le train de vie. Nous allons commencer à lutter contre la corruption. Nous allons entamer avec une conférence nationale pour échanger sur des problèmes présents et des problèmes passés et essayer de faire la synthèse, trouver des solutions pour le bonheur des Maliens.
Et alors, on sait aussi que l'autre mal qui mine le Mali, c'est la corruption. Vous, comment comptez-vous arrêter ce fléau-là? Qui empêche quand même ou qui réduit la marge du développement du pays?
Déjà à l'école, il faut introduire et rétablir à l'école l'éducation civique et morale. Parce que quand il y a corrompu, c'est qu'il y a corrupteur. Donc nous allons, depuis l'école, mettre des modules pour que l'on puisse sensibiliser au maximum les futures générations. Nous allons prendre des sanctions également. Mais aussi, nous allons sensibiliser à travers des séminaires, des colloques dans les secteurs privés, les secteurs publics, pour sensibiliser au maximum de ne pas faire la corruption, parce que ça met une république en retard.
Vous êtes homme d'affaires, vous l'avez dit tout à l'heure. Avez-vous toujours payé vos impôts? Êtes-vous toujours en règle avec les fiscs?
Bien évidemment, je suis un GIE, un groupement d'intérêt économique. Je suis avec des jeunes également. Nous payons nos taxes, nous sommes à règle. C'est le premier rôle d'un citoyen. Et si on veut être président de la République, il faut donner le bon exemple.
Et si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire de ce groupement? Vous n'allez pas leur donner des faveurs, par exemple?
Non, ces groupements, ils vont continuer à travailler, puisque avant que je ne sois président, ils étaient en train de travailler déjà.
Il peut avoir un conflit d'intérêts, quand même.
Par rapport à quoi? Il ne peut pas avoir un conflit d'intérêts. Il y a des statuts et règlements qui parlent de tous les paramètres. Donc, ils vont continuer à travailler. Si je suis président de la République, ça ne va pas me regarder. Je vais m'occuper de la République désormais.
Et la mauvaise gouvernance?
La mauvaise gouvernance, on l'a dit, il faut bien gérer la nation. On ne peut pas vivre dans un état de ordre.
Comment bien gérer?
Ça passe par moi d'abord. Il faudrait que je sois l'exemple. Et dans la gestion des choses, il faut être serein, il faut respecter les lois, il faut respecter les textes. Il faut aussi veiller sur les accords qui seront trouvés entre telle communauté et telle communauté. Il faut veiller à l'application intégrale de ces accords-là.
Êtes-vous allé à Kidal pour la campagne?
Pas pour le moment.
Pourquoi?
Nous sommes un nouvel parti politique et nous attendons de voir une lettre qu'on a déposée au niveau de l'aménagement pour aller. Sinon, déjà à Bamako, nous sommes avec les Kidalois. Je vous informe que ma candidature a été parrainée par 5 conseillers de Kidal également.
Mais la campagne prend fin le vendredi minuit. Oui. Pensez-vous avoir le temps de vous rendre dans ces zones-là?
Peut-être qu'au sortir d'ici, je vais partir.
Et par qui souhaiterez-vous être sécurisé? Les forces de défense maliennes, l'aménagement?
Nous, on adresse une lettre à l'aménagement. C'est ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, de voir qu'est-ce qu'ils peuvent pour notre sécurité. Je suis candidat à l'élection présidentielle. Ma sécurité, c'est d'autres personnes qui le font en ma place.
Si... Oui, mais vous, personnellement, si on vous demandait de choisir entre les forces de défense et de sécurité maliennes et les forces internationales, notamment l'aménagement, les casques bleus, qu'est-ce que vous allez choisir?
Les deux, parce que nous sommes en train de travailler ensemble depuis 2012. Les deux.
Alors, qu'est-ce qui différencie votre projet de société aux autres candidats?
C'est sa faisabilité, c'est réel. Notre projet de société, il est faisable.
Quand vous dites que c'est réel, donc vous voulez dire que les projets de société des autres ne sont pas réels?
Je ne connais que pour moi. Je sais que mon projet de société, notre projet de société du moins, c'est depuis la base que nous l'avons érigé. Nous sommes allés vers les populations, je l'ai dit. Nous avons fait 8701 villages. C'est ces préoccupations de ces populations qui sont dans le projet de société. Et ça fait la réalité malienne. Je le disais tantôt, le kilo du riz, on le sait. Le kilo du maïs, on le sait. Et on va trouver la solution très bientôt, si tout va bien.
Vous dites que vous n'êtes pas allé à Kidal. Et tantôt, vous dites que vous avez pris en compte toutes les considérations, les préoccupations de la population malienne. Et comment allez-vous être sûr que les préoccupations des Kidalois sont les mêmes que celles de Bamako ou de Sikasso, par exemple?
Vous savez, nous sommes un même peuple.
Avec des réalités socioculturelles différentes.
Exactement. Qu'on aille à Kidal ou pas, nous vivons avec les Kidalois à Bamako il y a plus de 30 ans. Les réalités sont les mêmes. Un citadin à Bamako, il connaît plus les réalités du village que les villageois parfois. Donc, je ne suis pas allé à Kidal d'abord, mais nous sommes en étroite collaboration avec des Tamachèques, des Maures, des Sorai. Donc, nous connaissons les réalités. Et ce sont ces réalités-là, sur ces réalités-là, que nous allons nous baser pour trouver des solutions.
Mais à part Kidal, avez-vous sillonné d'autres régions du Nord?
Nous avons sillonné toutes les régions du Mali, à part Kidal. Parce que Kidal, ce n'était pas accessible facilement, raison pour laquelle. Sinon, on aurait aimé aller à Kidal, même avant Bamako.
Mais en adressant une lettre à l'aménagement, par exemple, pour aller à Kidal, est-ce que vous, en tant que prétendant à la présidence de la République, vous n'estimez pas que c'est une violation de la souveraineté du Mali?
Non, pas du tout. Si déjà l'aménagement se trouve sur le territoire malien et ils ont été appelés par le président de la République de l'époque, je ne vois pas la violation.
Mais c'est une force d'interposition quand même, pas une force de guerre.
Nous le savons. Et entre Maliens, nous n'allons pas faire de guerre. Nous n'allons jamais faire de guerre entre nous. On va échanger, se comprendre, trouver des solutions. Cela est clair.
Mais est-ce que vous vous êtes pris un peu en retard si ça fait qu'il ne vous reste que quelques jours avant que vous vous rendiez à Kidal?
Je vous ai dit qu'il n'est jamais trop tard. Au sortir d'ici, peut-être que je serai à Kidal. Je ne peux pas, devant l'antenne, dévoiler tout mon programme. En tout cas, j'y serai.
Monsieur Traoré, si vous êtes élu président de la République, qu'allez-vous faire de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale? Vous le trouvez, c'est un acquis où il y a des choses à revoir dans cet accord?
Écoutez, le Mali a signé pas mal d'accords. Tamarasek, le pacte national. Un mauvais accord vaut mieux que l'absence d'accord. On ne peut pas continuer à s'étirer. Mais il faudrait analyser l'accord d'Alger issu du processus a été signé il y a plus de 3 ans. Et sa mise en œuvre, dans sa mise en œuvre, il y a beaucoup de difficultés. Donc il faut identifier ces difficultés-là, échanger avec les communautés, les vrais acteurs, trouver des solutions au point de blocage. Et également par rapport au cas connexe.
Et si vous identifiez ces problèmes-là, comment comptez-vous, quelle stratégie allez-vous adopter pour faire face à ces problèmes?
Les accords trouvés, président de la République Mamadou Traoré, je veillerai à l'application intégrale de ces accords-là.
Comment comptez-vous veiller à l'application intégrale de ces accords-là?
Vous savez, il y a la législation. Nous allons passer par les tests législatifs et réglementaires pour appliquer ces accords-là.
Quand vous dites appliquer, c'est vous en tant que président de la République ou les autres partis adverses? Pour appliquer cet accord, il faut que le gouvernement applique ce qui le concerne. Les autres partis également. Et quand vous dites vous, c'est en tant que président de la République où vous allez mettre tout le monde d'accord, amener, forcer les gens à mettre en place cet accord?
Non, j'ai dit qu'on va échanger. Nous allons échanger et trouver des solutions. Ça veut dire que toutes les parties sont là. J'ai déjà dit que nous allons discuter, nous allons échanger lors d'une conférence nationale que je ferai organiser dès les 100 premiers jours. Nous allons entamer dès les 100 premiers jours et la démarche d'organisation d'une conférence nationale pour échanger avec les vrais acteurs, avec les acteurs et les belligérants issus de ces localités-là et de ces communautés-là, trouver des solutions. Et ces solutions trouvées, moi, président de la République, je veillerai à l'application intégrale de ces accords-là à travers les textes législatifs et réglementaires.
Et que voulez-vous dire à travers... vous allez avoir une rencontre... une conférence d'entente avec les vrais acteurs.
Vous savez, on le dit en bamana, Kunte di Kunte ki koko. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raser la tête d'un individu en son absence. S'il y a problème et à Mopti, c'est la communauté qui vit à Mopti qui peut nous recenser les problèmes et nous proposer des solutions, bien évidemment avec le concours de nos amis, des amis du Mali et de l'État.
Il y a déjà eu une conférence d'entente nationale. Donc, vous voulez-vous dire qu'il n'y avait pas les vrais acteurs?
Je ne sais pas, mais nous allons faire notre conférence d'entente, notre conférence nationale qui va inclure tout le monde et échanger. S'il y avait des solutions trouvées, il n'y aurait pas de blocage aujourd'hui dans l'application de l'accord.
Mais, Mamadou Traoré, à vous entendre, on a l'impression que vous n'avez pas lu l'accord en intégralité.
Comment?
Vous l'avez lu l'accord en intégralité?
Bien évidemment.
Alors, mais quelles sont les difficultés dont vous parlez tout à l'heure?
Les
blocages sont où exactement? C'est situé à quel niveau?
Moi, je ne peux vous le dire à l'antenne ici.
Mais les Maliens aimeraient bien entendre ça. C'est un gros sujet quand même qui préoccupe les Maliens. Il faut la paix dans le pays.
Bien sûr.
Êtes candidat à la présidentielle. Il faut que vous donniez votre point de vue sur la question.
Vous savez, un accord, ça se signe entre deux parties. Il faudrait que ces deux parties acceptent l'application de ce qu'ils ont signé. L'accord a été signé entre le Mali et la CEMA, l'Algérie et les amis du Mali. Si aujourd'hui il y a blocage dans la mise en œuvre de cet accord-là, il faut recenser. Moi, en tant que candidat, je ne peux m'arrêter seul, dire que c'est tel blocage ou tel blocage. Il faut échanger avec les différentes communautés. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Mali jouera son rôle si je suis président de la République.
Il y a environ 2 mois et demi, le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, disait qu'il manquait de volonté politique pour l'application de cet accord au Mali. Il a dénoncé cela. Est-ce que vous, président de la République, vous vous sentez dans ces visères-là?
J'avais dit quelque part que pour l'application d'un projet de société, pour une bonne gouvernance, il faut une réelle volonté politique et l'amour de la patrie. J'ai l'amour de la patrie, j'ai la volonté de faire une bonne politique au Mali et pour que les Maliens puissent vraiment être soulagés des cailles à Kidal.
Mais pour mettre à bien, à faire fonctionner votre politique, appliquer votre politique. Il nous faut élu président, que vous ayez la majorité au Parlement, par exemple. Est-ce que si vous n'avez pas la majorité au Parlement, ce n'est pas un blocage?
Nous allons avoir la majorité au Parlement.
Mais parce que vous lisez dans la boule de cristal, on dirait, monsieur Tambouli.
Je vous en prie. Et un parti qui a parcouru le Mali, et le parti est né sur papier le 29 août 2016, et je suis candidat aujourd'hui. Je ne suis pas dans la boule de cristal.
Mais comment allez-vous être sûr d'avoir la majorité au Parlement?
Nous sommes en train de travailler à cela. Si Mamadou Traoré a pu être candidat à cette élection présidentielle, c'est qu'il y a bon nombre de Mamadou Traoré qui sont prêts à être députés et bon nombre de Mamadou Traoré qui sont prêts à être maires dans les différentes localités. Ce travail est en train de se faire. Nous n'allons pas dévoiler tous nos secrets ici, mais nous sommes candidats aujourd'hui parmi les 24. J'ai 37 ans. Nous sommes le dernier parti politique né qui est parmi les 24 et nous allons avoir la majorité parce que nous sommes 80,02% de jeunes. On est conscient de nos réalités.
Mais vous dites que vous ne voulez pas dévoiler tous vos secrets ici. Normalement, il n'y a pas de secret entre le président et son peuple.
Là, c'est entre les politiques et les politiques. C'est-à-dire, nous avons notre projet départ, c'est la présidence de la République. Après, il y a les autres échéances. Nous allons concourir. Vous allez voir que nous allons être majoritaires à l'Assemblée nationale.
Quand vous parlez que vous représentez plus de 80% de la population, vous faites allusion à la jeunesse. Mais cette jeunesse ne vote pas que pour vous. Soyons réalistes, M. Traoré. Les autres partis aussi ont des jeunesses avec eux.
Cette jeunesse n'avait pas trouvé un jeune candidat. Aujourd'hui, elle a un jeune candidat.
Est-ce que votre jeunesse est suffisante?
Elle a un jeune candidat de 37 ans qui est entrepreneur, qui se bat depuis des années dans sa commune, qui est entouré par des jeunes. Celui qui est plus âgé dans le parti, il a 45 ans. Donc, nous ne pouvons que espérer sur notre victoire et nous sommes sûrs et certains de remporter cette élection présidentielle.
Vous dites être sûr, mais pensez-vous que cela suffit? Être jeune, la jeunesse?
Nous avons l'amour de la patrie. Nous voulons apporter notre pierre à l'édifice commun, qui est la République du Mali. Ça suffit. Il faut aimer sa République. Sinon, être candidat, ce n'est pas facile. Mais nous le sommes aujourd'hui. Nous aimons la République du Mali. Nous allons nous battre pour que la République du Mali soit émergente.
Et pourquoi vous n'avez pas commencé par des postes électifs de basse échelle avant de remonter à la présidence de la République? On aimerait bien vous voir d'abord peut-être conseiller municipal, maire, député et prétendre la présidence de la République. On vous aura vu à l'œuvre quand même, M. Traoré.
J'étais déjà à l'œuvre. Je vous ai dit, dans ma commune, depuis les années 98, et je suis dans les brigades de vigilance que j'ai organisées par rapport à la sécurité. J'ai fait le désensablement des abords de la route principale de ma commune. J'ai fait également le ramassage des ordures. Je suis peintre décorateur et je suis un modèle pour la jeunesse malienne. Au lieu de quitter le Mali pour aller mourir sur le Méditerranée, un jeune malien de 37 ans, président de la République, ça va inciter mes frères à rester. Donc, je m'en vais vous dire que si il est possible de prendre la présidence de la République, pourquoi commencer en bas également? Aujourd'hui, tous les Maliens disent une nouvelle personne, un jeune. Je suis cette nouvelle personne, je suis ce jeune-là. Et nous allons gagner cette élection.
Nous allons ouvrir un chapitre sur les relations internationales. Si vous êtes élu président de la République, qu'est-ce que vous allez faire de l'accord de coopération militaire qui lie le Mali à la France? Notamment l'accord signé sous la présidence de Diakhoundé Traoré.
L'État est une continuité. Et le Mali a tout le temps eu des amis, notamment la France. Nous allons continuer avec les mêmes amitiés. On ne rompt pas avec l'amitié. Et on fait en sorte que ces amitiés soient profitables pour toutes les parties.
Mais quand même, dans cet accord, il est quelque part dit qu'au cas où les frappes françaises toucheraient des civils, les militaires français ne sont pas poursuivables par la justice. Est-ce que ce n'est pas un désavantage en tant que président de la République pour votre pays? Accepteriez-vous qu'on bombarde un village, par exemple, sous prétexte qu'il cache des rebelles et que ceux qui le font ne sont pas poursuivis?
L'État malien a signé sous John Kunda cet accord. Nous allons continuer avec notre coopération, une autre modèle de coopération avec la France. Nous n'allons pas mettre en cause tout ce qui a été fait. Nous allons continuer avec la coopération tout naturellement avec la France.
Et pensez-vous bénéficier d'un traitement de l'information équitable avec les médias?
Non. Avec les médias...
Pourquoi? Quand vous dites non?
Et nous, peut-être que parce que nous sommes un nouveau parti et nous sommes jeunes également. Et au niveau de l'ORTM, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ses spots à la télé. Donc les informations ne sont pas à notre portée. Et on va aux informations très souvent, mais on n'a pas les informations.
Mais vous avez un temps d'antenne quand même dans les médias publics.
Oui, c'est les 5 minutes. Nous battons sur les réseaux sociaux, à travers les WhatsApp, pour communiquer, puisque c'est notre époque, le numérique, WhatsApp, Facebook, Viber, pour communiquer avec...
Mais est-ce que vous êtes sûr que dans les villages les plus reculés, on vous entend, on vous écoute sur Facebook ou WhatsApp, par exemple?
Dans chaque famille au Mali, aujourd'hui, il y a un portable smartphone et il y a WhatsApp.
Et dans les régions éloignées, comme par exemple Kidal, Menaka, là où il y a des problèmes même de réception avec les téléphones, à plus forte raison, Internet. Donc, pensez-vous que vos messages touchent la population de ces localités-là?
Nous avons communiqué au téléphone avec les Kidalois. Ça, moi, je ne le sais pas. Nous avons communiqué au téléphone avec les Kidalois.
Mais souvent, ils utilisent des téléphones satellitaires quand même dans le désert.
Ça, je ne le sais pas.
Communiquer au téléphone et avoir Internet, c'est un peu différent.
Vous savez, au Mali, nous avons une tradition, c'est de bouche à oreille. Et c'est cette tradition-là que nous avons appliquée depuis plus de 15 ans, avec nos 10 noix de cola et nos 500 francs sur nos parents. Déjà, on avait déjà commencé le travail. Aujourd'hui, c'est la campagne. Mais une élection, ce n'est pas que la campagne, c'est la pré-campagne d'abord. Et nous sommes dans la pré-campagne il y a plus de 15 ans. Donc, ça va forcément faire en sorte que nous sommes écoutés. Parce qu'on est allé dans les villas, on nous a dit, mais vous êtes jeunes. Vous, les jeunes, tout le temps que vous dites que vous voulez être candidat, et après, on ne vous voit pas. Faites tout pour que ça soit réel. Donc aujourd'hui, la candidature, elle est réelle. On a été chez nos parents, nos grands-parents, de dire que nous allons être candidats. Ils ont eu écho aujourd'hui. On est reparti vers eux. Bon, voilà. On est candidat aujourd'hui. Là, on attend le 29 août pour voir le résultat.
Sur les médias publics, vous avez parlé qu'on vous accordait que 5 minutes. 5 minutes n'est-il pas suffisant?
5, c'est pas suffisant. Pour convaincre une population, 5 minutes, c'est pas suffisant. Pas du tout. C'est trop peu.
Vous parlez tout à l'heure des données de cola et 500 francs par famille ou dans les localités que vous avez visitées. Est-ce que ce n'est pas une forme de corruption passive?
Non, c'est notre tradition. Et notre tradition nous impose, dans les vestibules, de donner 10 noix de cola et 500 francs. Et ce n'est jamais allé au-delà de ça. Nous n'avons même pas ces moyens-là. Aujourd'hui, nous sommes stupéfaits de voir que les stades sont remplis. Il y a des affiches partout. Mais si nous, on avait ces moyens-là, on allait utiliser ça lors de la grève des médecins pour soulager la souffrance des
médecins. Mais les affiches, c'est une forme de communication dont vous prétendez être président de la République, vous ne communiquez pas suffisamment. Si vous avez de l'argent, vous n'allez pas remplir les stades, par exemple?
Pas inutilement. Et nous avons eu des difficultés au Mali, ici, et la grève des médecins. Et si moi, j'avais les moyens que les autres ont aujourd'hui, j'allais l'investir à l'hôpital ces jours-là.
Et que voulez-vous dire par pas inutilement remplir la stade?
Aujourd'hui, les moyens de l'État sont utilisés, les gros moyens sont utilisés. Et nous, on pense qu'il y a une forme de faire la campagne. Cette forme, c'est d'aller vers la population lors de la pré-campagne, discuter avec eux, les convaincre. Cela vaut mieux que de rentrer dans le dispatching des sous. Le Mali a besoin de sortir de ces trous-là et ça passe par une économie saine.
Et que voulez-vous dire par une économie saine?
C'est nous-mêmes d'abord. Il faut économiser. Nous, politiques, moi je ne fais pas partie parce que je n'ai même pas les moyens. Nous, politique aujourd'hui, on doit s'abstenir, on doit penser au peuple malien.
Mais quand vous dites penser au peuple malien, alors que vous mangez du riz thaïlandais?
Je ne mange pas que du riz thaïlandais, je vous ai dit. Je ne mange pas que c'est du riz thaïlandais qui se trouve sur le marché.
Mais il a été importé.
Il a été importé, c'est le seul parmi les autres que je mange. C'est-à-dire, il y a le maïs que je mange qui est d'ici.
Si vous pensez réellement au peuple malien, vous auriez dû continuer à consommer que du produit made in Mali, par exemple.
Et le lait en poudre, tout le monde le consomme, ce n'est pas du Mali. Les pâtes, les trucs de conserve, on utilise. Moi, le riz thaïlandais, je consomme. C'est parce que c'est le seul qui se trouve sur le marché pratiquement. Maintenant, ce qui se trouve sur le marché qui est à ma portée, c'est le maïs, le sorgho, que j'utilise également. Je mange du bachi, je mange du haricot. Le haricot, il n'est pas d'ailleurs, il est d'ici. Je ne mange pas que du riz thaïlandais.
Mais vous avez dit que vous avez beaucoup fait pour la communauté. Pourquoi vous n'avez pas fait quelque chose pour changer le fait qu'il y a plus de riz thaïlandais sur le marché que le riz malien?
Vous savez, investir dans l'office du Niger, par exemple.
Aujourd'hui, l'office du Niger, c'est pour les cultivateurs. Moi, je suis dans le domaine du ramassage des ordures. Et j'investis dans ce domaine-là. Je ne peux pas quitter le domaine du ramassage des ordures, aller prendre la part de mon frère qui est à Mopti, soi-disant que je voudrais investir.
Non, on ne parle pas de prendre les parts, mais pourquoi ne pas créer une collaboration?
Ils sont dans leur rôle déjà. Moi, je suis en train de ramasser les ordures ici et faire mon entrepreneuriat. S'ils sont dans leur rôle, ils sont bien là-dedans. Donc moi, je ne vais pas... Déjà, je gagne ma vie ici, je ne vais pas aller me mettre dans leur affaire.
À vous entendre, M. Traoré, si vous avez l'argent, vous n'allez pas investir dans les manifestations, des campagnes, des réunions, remplir les stades. Est-ce que vous faites l'apologie de la pauvreté? On sait que même dans les grandes démocraties, les États-Unis, la France, l'Allemagne, il faut avoir de l'argent pour être président de la République. Pour battre campagne, il faut avoir de l'argent.
Les lealtés diffèrent. Au Mali, nous avons une culture qui nous aide beaucoup. C'est le social. Les portes en porte, nous sommes là-dessus. Ce n'est pas aller faire des affiches. L'affiche ne dit pas à un individu d'aller voter. Mais au Mali, quand vous venez trouver les gens chez eux à la maison, échanger avec eux autour de votre projet de société, ils acceptent vous voter.
Allez-y.
Ils acceptent vous voter. Donc, raison pour laquelle nous sommes plus porte en porte, puisque nous sommes nombreux, nous sommes dans les familles, nous sommes en train de sensibiliser. Et vous allez voir le résultat. Au soir du 29 juin, on n'est pas en train de rêver.
Mais quand vous dites que vous n'allez pas investir dans les affiches, vous êtes dans le porte-à-porte, mais il y a de ces régions où vous n'avez pas été. Mais eux, pourtant, eux, ils ont eu la possibilité de voir des affiches d'autres candidats, mais pas votre affiche.
Donc, nous avons des affiches partout. Nous avons des affiches partout. J'ai dit qu'au lieu de mobiliser les grands fonds pour les stades, si j'avais ces moyens-là, j'allais l'investir lorsque les médecins étaient en grève pour 45 jours au Mali. C'est ce que j'ai dit. Les affiches, tout naturellement, il faut les faire. Sinon, comment on va m'identifier parmi les autres?
Et vous allez investir pour aider les médecins étant candidat ou quand vous serez président de la République?
Ça l'est étant candidat. Avant ce jour-là, aujourd'hui. Parce que les médecins, ils sont allés en grève l'année dernière.
Mais on vous a posé tout à l'heure la même question. Pourquoi, si vous aidez les médecins, pourquoi ne pas aider les paysans de l'Office du Niger ou des Faguibines, par exemple?
Et un paysan, il tombe malade. Un médecin, il tombe malade. On dit la santé avant tout. Pour cultiver son champ, il faut être en bonne santé. Raison pour laquelle j'allais investir là. Pour que mon parent de Nioro, mon parent de Mopti, mon parent de Kai et du Mali en général, puisse avoir la bonne santé et aller cultiver son champ.
On sait qu'au Mali, le ministère de l'Éducation est celui qui engloutit le plus gros budget de tous les ministères. Et pourtant, l'école malienne va mal. Vous, quelle est la solution à ces problèmes si vous êtes élu président de la République?
Nous allons revaloriser l'école publique.
Comment?
Nous allons faire des nouvelles classes. Nous allons faire un recrutement massif des enseignants. Nous allons également faire la formation continue des enseignants. nous allons adapter la formation au Mali, nos réalités, parce qu'il ne faut pas aller à l'école et venir faire du thé à la maison. Et nous allons, comme je l'ai dit, mettre l'amour, assurance maladie obligatoire à l'école pour inciter les parents à envoyer les enfants à l'école pour diminuer le taux de non-scolarisés.
Et le chômage?
Le chômage, on l'avait déjà dit. Nous avons dit qu'il y a 703 communes parce qu'il ne faut pas se tromper. Au Mali, nous sommes 69% des non-scolarisés. Le chômage, ça touche ceux qui sont scolarisés et ceux qui ne le sont pas. Raison pour laquelle nous nous sommes axés sur le domaine de l'agriculture que j'ai cité précédemment. Et à Bamako, par exemple, et dans les grandes agglomérations, ceux qui sont à l'école, dans mon domaine, le domaine de l'assainissement, Bamako environ, nous avons à peu près 4 millions de ménages. Et les 4 millions de ménages payent la moyenne de 2500 comme frais de ramassage des ordures. 4 millions fois 2500, ça fait 10 milliards. Et 10 milliards fois les 12 mois de l'année, ça vous fait 120 milliards. Avec 120 milliards, nous allons créer des unités de recyclage des ordures qui sera gage récupérateur de d'autres formes de chômage. Nous allons également lutter contre le réchauffement climatique à travers dans la mise en œuvre, à travers les cahiers des charges dans les différentes communes pour le reboisement. 5000 arbres par commune, ça fait 3 515 000 arbres.
D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de ce débat. Monsieur Mamoudou Traoré, une dernière question en 30 secondes. Si vous ne passez pas au premier tour, pour qui allez-vous appeler pour voter?
Cette option, nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes dans l'option que nous sommes au deuxième tour.
Mamoudou Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Merci beaucoup.
Voilà, merci Fatoumata Togola.
Merci Kolsi Agassou.
Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève ce grand dialogue. Merci de l'avoir suivi, passez d'excellents moments en compagnie de nos radios et télévisions partenaires. Très belle soirée. À demain.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri. Haloud Mouni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.